Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore cet après-midi. Et comme nous venons de le chanter, je pense que le Seigneur désire plus que nous puissions nous retrouver avec lui pour qu'il puisse prendre soin de nous. Nous allons faire une première lecture dans l'évangile de Marc, si vous avez votre Bible avec vous, au chapitre 1er, au verset 40. Et après quoi, on ira dans Marc chapitre 3. Nous lisons ensemble Marc chapitre 1er, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Nous allons au chapitre 3 de ce même évangile, à partir du verset 1er. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux, avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Nous allons cet après-midi, pendant un instant, nous attarder sur cet homme qui avait la main sèche. Au premier abord de ce texte, nous pouvons en conclure, réfléchir sur cela, que ce n'était pas la première fois, en tout cas on peut le supposer, qu'il croise le chemin, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons qu'il est écrit, entra de nouveau dans la synagogue. Au vu de ce qui est écrit, on comprend que tous ceux qui étaient présents dans la synagogue savaient très bien que cet homme avait un problème à la main. Et vous savez ce que c'est? Il n'y avait pas d'email à l'époque, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de téléphone portable, mais ça n'empêche que les choses se savaient. Et on peut supposer que si ceux de la synagogue étaient au courant, ceux des alentours, ceux de la ville, du village, le savaient également. Et si l'on était au courant que cet homme avait une infirmité, on était aussi au courant que Jésus pouvait guérir. Les choses se savaient. Il ne faut pas croire que chacun était replié sur soi, mais les choses étaient là, c'était un fait, c'était manifeste. Cet homme qui avait cette main sèche aurait pu rencontrer Jésus-Christ avant. Il aurait pu, lui, faire la démarche. Et peut-être avait-il envie de la faire, on ne sait pas. On ne va pas aller au-delà des Écritures, mais quand même, on peut supposer certaines choses, d'autant plus qu'il y a un texte dans l'Épître aux Romains qui nous incite à cette réflexion, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose, il est évident, et que dans le cœur de cet homme, peut-être qu'il avait envie qu'il se passe quelque chose, il n'osait pas. Peut-être que cet homme, autrefois, voulait, mais avait peur du regard, n'avait rien fait. Vous savez, on peut venir aux réunions, partir et regretter d'être parti parce qu'à ce moment-ci, on n'a pas pris la décision. On peut chez soi lire la Bible et sentir que Jésus nous appelle et refuser cet appel à demain, après-demain, la semaine prochaine, les mois qui suivent et regretter cela. Et on peut manquer des temps dans notre vie comme ça qui sont importants. On peut peut-être louper le coche, excusez-moi l'expression. Et toujours est-il, c'est que si on a manqué un certain temps, si on a manqué un rendez-vous, aujourd'hui, cet après-midi, c'est encore un rendez-vous que Dieu nous donne pour que nous puissions le rencontrer. Il y a ce texte donc dans l'Épître aux Romains qui nous dit, je vous le lis dans une autre version, « Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse ? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure et de te pousser à la conversion, à la repentance? Le temps, c'est ainsi. Et le temps que nous passons sur terre n'a pour unique, seul but de nous permettre de rencontrer Jésus-Christ. Le passé, c'est ainsi. Le passé, on ne peut pas y revenir. Mais aujourd'hui, c'est quand même le mot du Seigneur pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ça a été le mot pour cet homme qui peut-être avait vu des occasions passer dans sa vie. Mais cette fois-ci, il va se produire quelque chose. Et c'est cela qu'on aimerait voir se produire dans vos vies. C'est ce que nous avons expérimenté, c'est ce que ces chants nous ont présenté. C'est une expérience de vie où nous avons compris que Dieu était bon et qu'il veut prendre soin de chacun d'entre nous. On comprend que lorsque Jésus-Christ va rentrer dans cette synagogue, il va se passer quelque chose. Tout le monde était en attente. Et ce qui a attiré mon attention, et ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est ce que Jésus va faire et la réaction. Parce que Jésus va poser une question. C'est bien. Bien sûr, la question qu'il pose, on le sent, c'est pour amener à la réflexion des personnes présentes, pour nous faire, nous, réagir aujourd'hui sur le sens que nous donnons aux Écritures, sur le sens que nous donnons à la religiosité, à la religion de ce monde, à ce que peut-être nous avons produit dans notre vie, mais qui n'a jamais produit du fruit dans notre cœur. Il va leur poser cette question qui peut peut-être même surprendre. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Bien sûr, nous aujourd'hui, nous sommes éclairés, nous avons la parole, et si vous découvrez ce lieu, laissez-moi vous dire que tous les jours, Jésus veut œuvrer, Jésus veut travailler votre cœur pour vous sauver, c'est incontestable. Mais voilà, la suite de ce verset, c'est ce qui peut être un peu dramatique dans notre vie. La parole de Dieu nous dit « mais gardez le silence ». Et ça, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe de garder le silence, de ne rien dire. On pourrait dire presque que ce n'est pas correct de ne pas répondre à une question que Jésus nous pose. Parce qu'au-delà de cette question qu'il a posée à ce moment présent, aujourd'hui, il y a une nouvelle question qui doit résonner dans votre cœur. Aujourd'hui, c'est une occasion où Dieu peut vous poser cette question, est-ce que tu veux être sauvé? Peut-être que ce n'est pas la première fois même que vous entendez cette question, peut-être ce n'est pas la première fois que vous entendez cette invitation, comme l'a présenté Antoine lorsqu'il présentait ses chants, de venir, de vous approcher de Dieu, de vous abandonner entre ses mains. Seulement voilà, est-ce que suite à ces nombreuses interpellations de Dieu pour votre part, pour votre vie, pour votre éternité, est-ce que la seule attitude de votre part, est-ce que la seule attitude que je peux avoir à l'égard de Dieu, c'est le silence? C'est de mépriser ce qu'il me dit. Bien sûr, nous sommes libres. Bien sûr, on n'est pas là pour forcer la main à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour obliger. Personne ne le peut. Et ça serait même anti-biblique, mais quand même, cela doit nous faire réfléchir. Le mot « silence » dans ce texte est précis, parce qu'il peut y avoir un silence par rapport à un état de tranquillité, employé dans la parole de Dieu, un silence causé par la peine, par le chagrin, qui nous empêche de nous exprimer, tellement nous sommes contrits, brisés. Et ça peut se produire dans notre vie, et peut-être parmi nous cet après-midi, des personnes ont vécu ces genres de silence où on n'arrive pas à s'exprimer tellement la douleur est présente. Il ne s'agit pas de ce sort de silence dans ce texte. Ce silence dénote l'abstinence de parole, quelque chose de volontaire. Les hommes qui étaient là, les personnes qui étaient là, ont méprisé Dieu, ont méprisé Jésus-Christ. On ne peut pas être neutre, vous savez. On ne peut pas entendre le message de la croix et faire comme si on ne l'avait jamais entendu. On ne peut pas entendre que l'homme est pécheur, que l'homme sans Dieu est privé de sa présence. On ne peut pas entendre que si on n'est pas réconcilié avec Dieu, le seul chemin que nous prenons, c'est le chemin de l'enfer, sans que cela puisse produire en nous une prise de position, une réflexion, une réponse face à ces proclamations. Et on comprend que ça puisse et que ça a provoqué l'indignation du Seigneur, non pas que Jésus aurait pu, et je vais le formuler comme cela, Jésus aurait pu leur dire, non mais attendez, je vous pose une question, vous ne savez pas qui vous pose cette question, vous devez me répondre. C'est ce que quelqu'un a fait à l'égard de Jésus, ne sais-tu pas qui est en face de toi et tu te permets de ne rien dire. Jésus, sachant cela, aurait pu prendre cette réplique, il ne l'a pas fait. Jésus était attristé, affligé, parce que le silence finalement, ce silence, ça reflétait l'endurcissement de leur cœur. Ça reflète notre sécheresse intérieure. Parce que dans ce texte, si tous nous sommes focalisés sur cet homme à la main sèche, on peut quand même aisément comprendre cet après-midi que tous, sans exception, avaient le cœur sec, avaient un membre paralysé, avaient peut-être leur conscience paralysée, avaient leur être intérieur paralysé. Et ce que Jésus était en train de vouloir provoquer dans leur vie, ce n'était pas pour bousculer les habitudes, ce n'était pas pour remettre en question tout leur système religieux, leur système de pensée, mais c'était pour leur faire prendre conscience qu'ils étaient secs et endurcis au fond de leur vie, au fond de leur âme. L'endurcissement, vous savez, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui nous empêche de recevoir la parole de Dieu. Il y a un texte, et je le lis pour vous, qui peut être une définition, qui peut exprimer d'une manière différente ce que je suis en train de partager avec vous. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est Éphésiens 4, verset 18. L'endurcissement, ça nous rend étrangers à la vie de Dieu. C'est cela la réalité. Avoir le cœur sec, ça nous rend étrangers à ce que Dieu veut produire en nous. Ne pas saisir cette réalité que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, que nous avons besoin de pardon, que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça nous rend étrangers à la vie de Dieu, ça nous rend étrangers aux promesses de Dieu, ça nous rend étrangers aux alliances que Dieu veut contracter avec nous. Ça nous sort du plan de miséricorde de notre Dieu. Ça nous enlève du plan du salut. Et Jésus, alors bien sûr, mais c'est pas écrit, mais on comprend. Parce que de toute manière, Dieu est amour. Et on l'a chanté. L'amour de Dieu surpasse tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut imaginer. Et Jésus était là pour essayer de faire provoquer en eux cette réflexion, ce désir de changer, ce désir qu'il puisse se passer quelque chose dans leur cœur, cette honnêteté de vie de dire « mais c'est vrai, peut-être je me suis endurci, peut-être que je ne laisse pas cette parole pénétrer en moi, peut-être que j'essaye de changer de vie de ma propre force, par mes propres moyens, je n'y arrive pas ». La seule et unique direction dans laquelle ce texte doit nous amener, la parole de Dieu nous amène, les chants nous amènent, c'est l'œuvre de Jésus sur le bois de la croix. parce que c'est lui qui est capable de changer notre vie. C'est lui qui est capable de faire reverdir les déserts. C'est lui qui est capable de faire fleurir les endroits les plus desséchés de la terre. Et c'est lui qui est capable de mettre sa vie dans notre être tout entier. La Bible nous dit, ce texte que nous avons lu, que Jésus va promener les regards sur eux. Alors, promenant ses regards sur eux, avec indignation et en même temps affligé, il va dire. J'ai trouvé cette parole extraordinaire, parce que même quand on méprise Jésus, même quand on refuse son amour, même quand on refuse ses invitations, et peut-être cet après-midi, il y en a qui ont déjà refusé 2, 3 fois, 5 fois, 10 fois son invitation. Ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que Jésus a toujours un regard pour nous. Jésus a toujours de la bienveillance. Jésus veut toujours se manifester. Jésus aurait pu détourner les regards, comme nous l'avons fait nous-mêmes, à son égard. Jésus aurait pu sortir en disant « Mais je ne peux rien faire dans ce lieu parce que vous n'avez pas la foi, parce que vous êtes secs, parce que vous êtes endurcis. » Jésus aurait pu les condamner. Jésus aurait pu faire beaucoup de choses, mais la Bible nous dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. La Bible nous dit qu'il est venu donner sa propre vie pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être délivrés de nos péchés, pour que nous puissions recevoir ce pardon dont nous avons tant besoin dans notre vie, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Le psaume 10 nous dit « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Un autre psaume pourra nous dire, le psaume 14, verset 2, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Et cet après-midi, les regards de Dieu sont encore là. Dieu voit votre cœur. Dieu voit ce que vous avez traversé. Dieu voit ce qui s'est passé cette semaine, ce qui s'est passé ce mois, ce qui s'est passé peut-être ce matin, ce midi. Dieu voit la peine, Dieu voit notre souffrance, votre souffrance. Dieu voit dans votre vie ce qui est sec. Les regards de Jésus étaient là. Le regard de Dieu parcourt la terre pour voir celui qui est en peine, celui qui le cherche, celui qui cherche la vérité. Et cet après-midi, les regards de Dieu sont là, non pas, et je le répète, pour juger ni pour condamner, mais pour sauver, pour venir bénir, pour venir restaurer quelqu'un. Affligé de l'endurcissement. Et pourtant, il va bénir cet homme. Affligé, attristé de notre état. Jésus sait de quoi nous sommes faits. On n'a pas besoin de se changer pour venir devant Jésus-Christ. On n'a pas besoin de se dire peut-être que demain je vais aller un peu mieux et je vais pouvoir me présenter devant lui. On n'a pas besoin d'essayer de se modifier pour gagner l'amour de Dieu. On n'a pas besoin de faire des bonnes actions pour apaiser notre conscience et ainsi venir à l'église en se disant « Peut-être que cette fois-ci, Jésus va pouvoir m'aimer. » C'est l'esprit du monde qui nous fait croire cela. L'amour de Dieu, c'est gagné pour nous. Excusez-moi l'expression. L'amour de Dieu, c'est disponible pour nous. Affligé de leur endurcissement, Jésus veut quand même bénir. Jésus a béni cet homme. Ses regards étaient là. Vous savez, il y a ce texte, et peut-être vous y avez pensé, vous qui êtes accoutumés à lire la parole de Dieu. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » c'est nous qui avons détourné les visages de lui. C'est nous qui avons détourné le regard de lui. Et je le répète, cet après-midi, Jésus a encore ses regards fixés sur chacune de nos vies. Parce que Jésus sait que c'est vital pour nous qu'on ne sorte pas de ce lieu avec encore notre sécheresse en nous, avec encore ce mal-être en nous, avec encore notre péché qui nous ronge, qui provoque petit à petit toujours un endurcissement supérieur, toujours un endurcissement qui veut s'étendre dans les moindres détails de notre vie. Jésus sait que c'est vital pour nous. Et quand bien même on a détourné le visage de lui, quand bien même on a détourné le visage de l'œuvre de la croix, quand bien même on a détourné le visage de ses meurtrissures, Jésus est encore là et il veut dire « mais étends ta main, étends ton infirmité ». On pourrait le dire d'une manière différente, mais donne-moi ton péché, viens à mes pieds, donne-moi ce qui cause ta ruine dans ta vie. C'est cela l'amour de Christ. C'est cela notre réponse, la réponse que Dieu attend de notre part cet après-midi, c'est qu'on lui donne tout ce qui est sec pour qu'il puisse le changer, pour qu'il puisse le transformer. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix. La croix, le message de l'Évangile, c'est cela. C'est Jésus qui s'est offert, qui a donné sa vie, son sang a coulé pour que nous puissions vivre ses paroles. Je terminerai avec cette pensée, parce que peut-être vous pouvez vous demander, mais finalement, pourquoi avons-nous lu Marc chapitre 1er ? Il y a dans ce texte de l'homme qui étend sa main sec, sèche, quelque chose qui peut être frappant, c'est qu'on voit à de nombreuses reprises Jésus lui-même étendre sa main. Et c'est pour ça que nous avons lu Marc chapitre 1er, lorsque ce lépreux se présente à lui, on l'a lu ensemble, Jésus a été ému de compassion, et la Bible dit, rajoute, Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Seulement, voilà, pour cet homme à la main sèche, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et il aurait pu le faire. On est d'accord. Il aurait pu dire, mais voilà, mets-toi là au milieu, donner le même enseignement, mais se déplacer et étendre lui sa main pour toucher. Il pouvait le faire et il l'a déjà fait. Mais je pense que, à la lumière de ce texte, nous pouvons comprendre que dans nos propres vies, Jésus, lui, a tout accompli sur le bois de la croix. Jésus a fait ce qu'il devait faire, comme l'a dit Antoine. Le but de sa venue, c'est l'œuvre de la croix. C'est sa mort, sa résurrection. De son côté, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Mais peut-être que nous, de notre côté, on doit comprendre que quelquefois, c'est à nous de vouloir sortir peut-être de ce confort, peut-être de ce qui fait notre honte. Peut-être c'est à nous de prendre, de faire ce pas de foi cet après-midi. C'est à nous peut-être de dire, mais c'est moi qui veux étendre ma main. C'est moi qui veux peut-être venir devant Dieu confesser mon péché. C'est moi peut-être qui, cet après-midi, pour répondre à cet appel de Dieu, je ne vais pas faire comme toutes les autres fois où j'ai entendu et gardé le silence, mais peut-être que la réponse que Dieu attend cet après-midi, c'est la repentance. C'est que vous puissiez vous repentir de vos péchés, que vous choisissiez de vous convertir, de choisir la vie et non la mort, que vous puissiez manifester votre foi en disant « les autres fois, j'ai peut-être manqué le coche, les autres fois, j'ai pas su me saisir du temps de Dieu, les autres fois, peut-être, j'ai laissé passer. » Mais comme le dit ce texte, De nouveau, il y a cette invitation de Dieu. De nouveau, il y a cet appel de notre Sauveur à venir devant lui au pied de la croix pour que nous puissions lui étendre, sortir, étendre notre vie devant lui pour qu'il puisse intervenir. Pour terminer, il y a, vous savez, ces récits évangéliques sont tellement extraordinaires que ça nous appelle toujours à une réponse. Et il est écrit, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. C'est quand même une drôle de réponse, mais c'est une réponse. Faire périr la croix, faire périr Jésus-Christ, bien sûr on ne peut pas, c'est impossible. Le diable a essayé, il n'a pas pu le faire. C'est le plan de Dieu pour l'humanité, mais on peut faire quand même périr ce message dans notre cœur en le rejetant. On peut quand même faire périr la parole de Dieu en la rejetant, ne pas l'acceptant. Et je pense que cet après-midi, on doit au moins, dans notre cœur, répondre, ne pas rester encore en silence face à cet appel de Jésus-Christ. Choisis la vie et non la mort. C'est à nous de pouvoir nous positionner dans notre cœur, en tout cas, c'est ce que Dieu nous demande. On peut prier le Seigneur ? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta délicatesse, ton amour, pour ce regard plein de compassion qui parcourt encore ces lieux. Tu lis dans nos cœurs, dans notre âme. Tu sais celui qui a besoin de restauration, celui ou celle qui a besoin d'être reconstruit, reconstruite, d'être béni dans son âme, dans son corps. Seigneur, tu sais celui qui a besoin d'un pardon profond, véritable, celui qui s'est toujours ou celle qui s'est toujours gardée en silence devant cet appel de la croix et qui cet après-midi peut-être est en lutte dans son cœur. Mon Dieu, par ton esprit, parle. Viens convaincre, viens bénir, viens restaurer, viens donner la vie là où la mort a régné pendant tellement de temps. Seigneur, merci pour tout ce que tu es capable de faire, pour tout ce que tu veux faire. Seigneur, nous nous attendons à toi, encore, parce que tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Reçois notre louange et notre adoration, mon Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen.